Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h.
Tim Dugas.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
18h03, bonsoir à tous, ravi de vous accueillir pour un nouveau Team du Gars, à parler pendant 2 heures, à se régaler, à rigoler et surtout avoir beaucoup de recul par rapport au football. C'est pour ça que Jean-Louis est avec nous. Bonsoir mon Jean-Louis, qui va tempérer tout ça.
Mais bonsoir, oui, bah, à tous.
Bah, ça va mon Jean-Louis?
Bah, ça va, et toi?
Passez mon week-end.
Ah, bah, j'ai écouté une super émission là, la boîte à souvenirs avec Christophe Dugarry hier.
Ouais, oh c'était au Chialot, hein.
Ah, c'était au Chialot, oui. Ouais, on faisait la boîte à souvenirs de Thiago Silva, t'as raison.
Ah ouais, exactement.
Allez, ah ouais, allez écouter ça en podcast. Franchement, c'est un super moment de radio avec Jean-Christophe Drouet, le travail de Pierre Amiche.
Rappelons que c'est une boîte, c'est une boîte sérieuse.
Boîte
c'est
pas à souvenirs, voilà.
Oui, oui. Pas une ah, voilà, boîte. Ouais. Oui. Ouais. Comme ça m'arrive d'aller souvent en boîte, pas toujours habillé, mais pas,
oui,
pas, là on est habillé. Là.
Mais tu laissais beaucoup de souvenirs.
Ouais. Pas tant que ça. Sincèrement, pas tant que ça. Éric Dimeco est avec nous également. Bonsoir Éric.
Comment ça va Dugas? Salut Jean-Louis.
Salut à tous.
Ça va Éric? Passe un bon week-end.
Ça va, écoute. Alors tu sais quoi,
je suis allé
manger hier à l'hôtel Bord chez notre,
ah,
ami,
oui,
David, chez notre ami David Cosette.
Oui.
Et donc je vous conseille, bonne petite table. C'est un hôtel, mais c'est un petit restaurant au bord de la mer. C'est Patty qui débute dans le métier.
Alors David Cosette, c'est le commentateur historique de la proie,
oui,
du basket,
NBA, Canal et tout.
Voilà, sur RMC Sport aussi, voilà, depuis plusieurs années.
C'est reconverti.
Qui ressemble un peu à Laurent Romeshko un peu.
Ah bon?
Pas du tout.
Ah bon? Il va mal le prendre.
N'importe quoi.
Ouais, bah, non, oui, non,
c'est cool. On l'embrasse parce qu'il se lance dans une nouvelle aventure. C'est quand même.
Ça fait un petit moment déjà, non?
Oui,
mais. Ouais, mais il a pris le Covid à plein tronche, je sais pas, cher.
Ah, oui,
donc il faut aider les commerçants.
Il y a un très beau reportage d'ailleurs qui est sorti sur son installation.
Exactement.
Sur
M6, ouais. Et exactement. C'est à hier, c'est ça?
C'est à hier, ouais, voilà. Au bord de la plage. Ouais.
Magnifique. Bah, allez-y, voilà.
Excellente idée.
Alors, je pensais que tu nous inviterais tous, Eric, à manger là-bas un
mais
jour.
Il n'y a pas de souci, mais descendez les poulets.
Ben, on descend, on arrive.
Ouais,
ça pour t'inquiète descendre, pas, s'il y a à manger, on arrive.
Il y a une super. Il y a le Osiris revient dans le game le 26.
Quel rapport?
Eh bien, si vous voulez descendre, je vous invite aussi à la soirée, apéro. Ah,
non, mais moi, je veux bien venir manger, mais pas regarder Osiris, t'es gentil.
T'as rien d'autre à vendre, Eric,
mais toi, tu veux faire que les mariages, jamais les enterrements. Donc, ouais, c'est ça? Eh bien, bravo.
C'est ça. Tout le monde est invité, Eric, même Dugas?
Oui. Bien sûr, mais comment? Attends, tu rigoles. Le problème, c'est qu'il risque de croiser quelques ex là-bas, donc ils ne voient pas trop qui viennent.
Non.
Ah non, ils ont plus d'âge, ils doivent être très âgés maintenant.
Eh ben oui, mais c'est une soirée âgée.
Alors on y va donc pour Team Dugas. À 19h, on va revenir en détail sur la carrière de Karim Benzema, son éclosion à Lyon, son adaptation compliquée au Real, avant ensuite de s'y imposer. Quelle trace laissera-t-il dans l'histoire du foot français? On se posera la question avec Fred Hermel qui sera avec nous. Fred qui a parlé d'erreur de casting ce week-end concernant Antoine Griezmann. On y reviendra aussi avec lui tout à l'heure. Griezmann au Barça, c'est une erreur de casting selon lui.
Et quand Fredo dit quelque chose, ça a une résonance mondiale.
Évidemment.
Donc ça fait beaucoup, beaucoup de bruit du côté du Barça.
Évidemment, oui, c'est sûr. À
18h30. Il se pose la question d'ailleurs de garder ou pas Griezmann suite à cette phrase.
Ça ne m'étonnerait pas. À 18h30, Christophe Galtier veut un jour entraîner l'OM. Est-ce que ce serait le meilleur pour ce poste? 32-16 là aussi pour débattre. Mais on va débuter par le PSG. Avec toute la cellule PSG reconstituée dans Team Dugas. Mohamed Bouafsi, bonsoir Mohamed.
Salut Dugas, salut Jean-Louis,
bonsoir,
salut Eric.
Mohamed.
Et Loïc Tanzi, puisqu'on va parler des jeunes et que c'est plus que jamais son rayon.
Quelle chance on a. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi autant de chance, mon Jean-Louis? Qu'est-ce qui se passe?
Ah, je pense que c'est pour relever le niveau de l'émission, je vois que ça.
Là oui, bien sûr.
Bah oui, attends.
C'est pour mettre des infos.
Il aurait peut-être fallu penser avant, par contre, parce que c'est bientôt fini. Donc,
c'est con d'y passer le dernier mois. Hein.
Ouais, ça fait peut-être un peu beaucoup, là, les deux en même temps. Là. Bon, enfin, on va voir ce qu'ils ont à dire.
Le meilleur, toujours pour la fin, Dugas.
Ouais,
c'est bien.
Ça va te coûter un bras, Dugas, cette histoire.
Alors, Mohamed. On va déjà aborder le mercato du PSG en général, puisque donc Leonardo, dans une interview au JDD hier, a donc acté les non-renouvellements de contrats, même si on le savait, hein, de Thiago Silva, de Cavani également, annoncé des départs, Meunier, Kurzawa. Il a confirmé aussi que Neymar et Mbappé seraient là l'an prochain. On va se poser la question, joue-t-il sa crédibilité et son bilan au PSG cet été? 32-16 pour en débattre, parce que là, le chantier est énorme. Hein,
il y a un chantier très important du gars Eric, c'est de recréer un nouveau cycle au PSG. C'est la fin d'un deuxième cycle. Il y a eu le premier cycle avec les arrivées de Thiago Silva, d'Ibrahimovic. Ensuite, le cycle avec l'arrivée de Neymar et de Mbappé. Et là, il y a le cycle du changement avec les départs de Cavani, de Thiago Silva, de joueurs qui ont été importants dans l'histoire parisienne. Il y aura aussi des départs de joueurs, on va dire, de compléments. Lévin Kurzawa, on peut penser à Choupo-Moting, on peut aussi penser à Thomas Meunier. Mais il y a la volonté de recruter un à deux nouveaux joueurs cadres, notamment en défense, clairement, avec l'information RMC Sport du week-end, le départ de Tanguy Kouassi. Il y a une volonté de recruter un défenseur central, il y a une volonté de recruter deux joueurs sur les côtés, un attaquant aussi, un joueur qui pourrait être derrière Icardi, un remplaçant, on va dire un remplaçant de luxe. Et aussi, on est en quête d'opportunités, un voire deux milieux de terrain, donc ça fait beaucoup de joueurs. Mais Leonardo le dit dans cette interview à nos confrères du JDD, il n'y a pas eu d'offre pour l'instant proposée par le PSG à des joueurs, des réflexions menées notamment avec les entourages, ce que tous les clubs font, et on verra surtout les opportunités et on ne remplira pas toutes les cases cet été.
La piste Lucas Hernandez, donc ça peut être une bonne opportunité.
C'est clairement dans les opportunités, mais pas au montant voulu par le Bayern Munich. On confirme les informations de la Cadena SER en Espagne, qui explique que Lucas Hernandez, le PSG en fait sa priorité. Oui, c'est l'une des priorités du PSG. Le joueur ne s'est pas adapté du Gaëric au Bayern Munich, ne s'est pas adapté à la vie allemande. Il s'est blessé, il a eu les ligaments croisés, sauf que le Bayern n'est pas contre son départ, mais à 80 millions d'euros. Et à ce montant-là, pour le PSG, c'est pas possible avec la crise du Covid et surtout avec la blessure du joueur. Donc il y a des réflexions comme ça avec des joueurs qui sont menés et Lucas Hernandez en fait partie.
Dugas, ce sera un bon choix, Hernandez, avant de débattre de Leonardo.
Ouais. Excellent, bon, je crois qu'on est tous unanimes sur le plateau pour dire que Hernandez est un excellent joueur qui amène sa grinta, qui amène son envie, sa détermination. Voilà, on le trouve assez impressionnant. Après, je suis surpris que le Bayern s'en sépare parce que même si Boateng a retrouvé la santé et la qualité, je suis pas persuadé que ça dure à vitam aeternam. C'est pas si facile que ça. Ils ont la chance d'avoir un joueur de ce niveau-là, même si c'est vrai qu'ils l'ont peut-être payé un peu cher, mais de ce niveau-là, qui est jeune, ça me surprend.
Il peut couvrir deux postes.
Ouais, il a eu une grosse blessure. Oui, alors effectivement.
Alors, son entraîneur Flick en a parlé aujourd'hui, en reconnaissant qu'il traversait une passe difficile. Il dit que beaucoup de choses se sont faites pendant sa blessure, un travail tactique avec la défense à 4 du moment, donc Pavard, Davis, les deux latéraux, Alaba et Boateng en défense centrale. Il dit que ça a très bien fonctionné, donc forcément, c'est plus dur pour lui aujourd'hui. En plus, il manque de rythme, Hernandez.
Oui, après, ça ferait, si tu rajoutes Davis, tu mets Alaba, plus Hernandez, ça fait trois gauchers. C'est quand même assez rare dans une défense sur quatre joueurs.
Alors d'ailleurs, c'est justement là où j'allais t'emmener au PSG aussi. Parce que donc, si tu prends Hernandez, ça veut dire que tes quatre défenseurs centraux, c'est Kimpembe, Marquinhos, Diallo et Hernandez. T'as trois gauchers là-dedans.
C'est rare. C'est très, très rare. Après, ça serait une belle opportunité pour le Paris Saint-Germain. Ça, c'est certain. C'est un excellent joueur. Il va t'amener cette grinta. Après, on va reparler de Leonardo, donc je ne vais pas trop développer, mais on fait comme
ouais,
ça.
Ouais, allez.
Non, mais très bien. Excellent choix. Excellent choix.
Eric, pareil, sur Hernandez.
Ben, moi, j'adore ce joueur. Donc, je pense qu'il amène plusieurs qualités, et notamment cette grinta dont on dit qu'elle manque au PSG. Donc, pourquoi pas? Maintenant, c'est un gros investissement. Et ça veut peut-être dire que tu dois te séparer de Diallo, parce que c'est vrai, trois défenseurs centraux.
Diallo ou Kerrer?
Ou Kerrer, après écoute, en tout cas sur le marché, moi je suis étonné aussi comme Dugas, on en a parlé
tout à
l'heure.
À droite,
comme Dugas, je suis étonné que le Bayern lâche un joueur comme ça, qui était prédestiné à revenir dans l'axe assez rapidement quand les tauliers là commencent un peu à baisser de pied. Bon, après il y a le petit Davis qui vient de débouler là au milieu, qui n'était pas prévu, ça c'est vrai que c'est un peu le coup dur pour lui, mais c'est
la star en ce moment, Davis au Bayern, oui, tout le monde en parle.
Ok, il va falloir.
Non, mais après, Eric, il y a deux problèmes. Le premier, c'est le montant. C'est-à-dire que peut-être que le Bayern est OK pour le vendre, mais pas n'importe quel montant. Et 80 millions d'euros, c'est pas dit que le PSG est capable de mettre ces montants-là. Surtout, on sait les investissements que le PSG va devoir faire ailleurs. Et ensuite, il y a quelque chose qui va dans le sens du PSG. C'est l'envie aussi de Lucas Hernandez de plus en plus de partir. Il se sent pas très bien du côté du Bayern. Et un joueur qui se sent pas très bien, c'est difficile de le conserver.
Bien sûr. Elle va être là. C'est lui qui va tout déclencher. S'il dit ouvertement à ses dirigeants, voilà, moi, ça me va pas, ça me plaît pas, ils sont pas contre le fait de le conserver, et puis ça peut avancer. Après, ça sera une question de moyens. Après, est-ce que le Bayern gardera un joueur contre son gré dans la période actuelle, j'en suis pas sûr.
Il était arrivé avec le précédent entraîneur aussi, ça change les choses. Ouais. Et il avait dit juste avant de signer au Bayern qu'il n'était pas insensible au PSG. Oui. Je me souviens, on en avait parlé.
Non, je pensais que tu allais dire autre chose. C'était un Marseillais qui a dit un jour pourquoi pas jouer à l'OM. Il a jamais été contre le PSG, voilà.
D'accord.
Alors, plutôt son frère qui est un peu plus un peu plus ferme.
Oui. Alors Dugas, sur Leonardo, est-ce que selon toi il joue gros cet été?
Écoute, je crois que pour le Paris Saint-Germain, c'est une opportunité, c'est une aubaine d'avoir autant de joueurs en fin de contrat qui vont partir. Voilà, donc il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, c'est des joueurs dont ils ne voulaient plus, les choses sont claires, puisqu'ils leur ont proposé aucune prolongation, donc c'est clair dans la tête des dirigeants et de l'entraîneur et des actionnaires, ils ne veulent plus de 4 joueurs assez importants, même si Kurzawa l'est peut-être un petit peu moins que Meunier, Thiago Silva et Cavani. Donc c'est une chance, il faut pas qu'il se manque, effectivement, il va y avoir des opportunités, il y a un problème financier pour tous les clubs aujourd'hui dans le monde. Comment vont redémarrer les championnats, le public, enfin bon, comment ça va se passer, on sait pas trop, donc il va falloir être attentif. Le Paris Saint-Germain a une chance quand même énorme, c'est d'avoir des liquidités, c'est quand même pas un club qui se retrouve en difficulté. Ils vont se délester de salaires très importants, très 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 important, notamment Cavani et Thiago Silva. Donc oui, je suis pas inquiet non plus, hein. Leonardo a la compétence, il connaît très bien le football, il a ses contacts un peu partout. Il s'est rarement trompé, il a du crédit, il suffit de voir les mecs qui sont passés derrière lui, comment ça a été compliqué pour eux de faire la maille et de bien faire les choses. C'est pour ça que Leonardo est revenu et que ça a été une chance pour le Paris Saint-Germain que Leonardo soit revenu. Faudra pas qu'il se trompe, c'est un test important, c'est un moment important, moi je suis pas spécialement inquiet, c'est une chance, il faut savoir la saisir, et là j'ai toute confiance au Paris Saint-Germain, il faut passer un autre palier, il faut une nouvelle fois avancer. C'est toujours difficile pour les clubs de il faut chaque moment comme ça, c'est un moment charnière avec tous ces départs, il faut arriver à inculquer quelque chose de nouveau, une nouvelle force, bien identifier ce qui a manqué au Paris Saint-Germain, ce qui manque au Paris Saint-Germain encore pour s'inscrire dans la durée. Peut-être que le Paris Saint-Germain va gagner avec des champions aussi, on n'en sait rien, c'est fort possible, mais faut pas que ce soit qu'une fois. Un club comme ça, il veut être dans les demi-finales tous les ans, donc il faut s'inscrire dans la durée, il faut redonner quelque chose de neuf et de nouveau. C'est une chance, c'est une opportunité, il va pouvoir travailler, il a les moyens, donc voilà.
Le nerf de la guerre quand même, après cette période, après Covid là, et un petit peu récession économique, c'est qu'ils sont solides. Non, Momo, le PSG, c'est quand même un des clubs qui a le moins souffert, ou qui souffre le moins de l'économie du foot, non ?
Alors c'est un club qui a, Eric, c'est assez antinomique, il y a un club qui a souffert, qui a beaucoup souffert. Ils ont perdu quasiment 207 millions d'euros avec cette crise du Covid, notamment les charges. Parce que c'est assez paradoxal, mais les petits clubs ont profité de la crise du Covid parce qu'ils n'ont pas donné de salaire, etc. Mais les très grands clubs, eux, ont dû donner des salaires. Et notamment le PSG, la Juve. La Juve, on parle de 125 millions d'euros de pertes durant cette crise. Le PSG, c'est 200 millions d'euros en tout. Donc, ils ont mal vécu, j'ai envie de dire, la crise financièrement.
Mais quand tu dis de pertes, il y a des trucs que je ne comprends pas. C'est des salaires qu'ils devaient donner quoi qu'il arrive. C'est de la perte parce que de l'argent n'est pas rentré.
En fait, voilà, pardon, je retire. C'est un manque à gagner. Voilà. En fait, si tu veux, c'est un manque à gagner de quasiment 200 millions d'euros. C'est très lourd pour eux. En revanche, vu que l'actionnaire est très fort, très puissant, il n'y aura pas de souci pour injecter de l'argent dans quelques semaines et pour permettre au club d'être encore plus compétitif cet été. Donc là, ce n'est pas un problème d'argent. Tu as raison sur ce point-là. Mais ils ont souffert de la crise quand même.
Voilà. Donc Eric, ça va te jouer là-dessus. Enfin, tu penses que toi, le PSG aura quand même les reins solides pour sortir gagnant de l'après-crise.
Je pense que le PSG fait partie des. On va en mettre combien, une dizaine de gros clubs européens qui veulent gagner la Ligue des Champions, qui ont d'énormes moyens et qui se donnent les moyens d'aller la chercher. J'ai l'impression que c'est un de ceux qui a peut-être le moins souffert.
Et alors Leonardo là-dedans, puisque donc c'était la base du débat, tu le sens capable de relever ce défi, plus encore, est-ce qu'il joue sa crédibilité plus encore qu'au quotidien dans ce mercato-là ?
Pour moi, quand tu as ce poste-là au PSG, tu joues ta crédibilité régulièrement. Lui, il a quand même montré, quand il est arrivé, au début du projet, qu'il avait eu le nez pour récupérer certains garçons, qui sont encore là aujourd'hui d'ailleurs, ou qui sont en fin de cycle aujourd'hui. Qui mieux que lui pour enchaîner ce nouveau cycle maintenant. Là où Dugas a raison, c'est que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu peux recruter judicieusement chaque fois. Les joueurs valent cher, tu te trompes encore plus quand tu as de l'argent. Donc on va voir ce qui va se passer. Et bien sûr que il va être jugé sur cette intersaison-là qui... Alors il y a un problème, c'est qu'on est en train de parler de la saison prochaine sans que cette saison soit finie finalement, puisqu'il y a encore ce mois d'août où, imagine, ils vont la chercher cette Ligue des Champions. tu dis quoi? Tu dis bravo, bravo Monsieur Leonardo, non?
Oui, ça n'empêche qu'il faudra reconstruire
voilà.
quand même.
Non, mais les je sais bien, je sais bien. Mais tu reconstruis pas pareil
oui, oui.
si tu vas la charger que si tu vas pas la charger ou ouais. si tu te fais taper un quart de finale sur le fameux match. Tu vois, c'est là où c'est un peu délicat de faire presque un bilan aujourd'hui alors qu'il y a quand même le meilleur qui arrive là.
Ouais, donc, faut partir de l'idée que tu qu'il la gagne ou qu'il la gagne pas, faut ça change
non,
rien.
Oui, mais ça fait rien quand tu gagnes.
Oui.
Tu vois?
Alors, il y a une autre phrase sur laquelle on peut rebondir aussi, Mohamed, c'est sur Kylian Mbappé. Il dit, c'est le futur du PSG. Alors, est-ce que c'est si évident que ça? C'est le futur du PSG.
En tout cas, dans la tête de Leonardo, c'est le futur du PSG. Dans la tête de Mbappé, ça, c'est autre chose.
Le contraire.
Voilà. Fin de contrat en 2022 voilà, pour lui.
Il lui reste deux ans de contrat. Il n'a toujours pas prolongé, comme Neymar d'ailleurs. Mais au sein du PSG, on dit que les situations sont différentes. Éric Dugas, Neymar gagne 36 millions d'euros. Personne ne lui donnera ce salaire-là ailleurs. Il a eu un salaire astronomique. C'est un braquage. Alors que.
Sans la cagoule.
Ouais, voilà, alors que Mbappé, oui. lui, gagne moins, beaucoup. Enfin, quand je dis beaucoup moins, ouais, gagne une somme.
Picard.
Voilà. Non, ça c'est un Marseillais qui dit ça.
Non, c'est Éric Dugas la comparaison.
Voilà. En gros, gagne moins. Il a eu des propositions de contrat,
oui, Eric, bien sûr.
De
oui.
prolongation de contrat. Ça discute, mais il a toujours pas répondu à ces demandes-là. Donc Leonardo, quand il dit ça, c'est aussi un petit coup de pression amoureux en faisant je te cajole et je te complimente
mais,
quoi.
Mais là on va avoir que de ça les mois à venir. Ça va être que des câlins à Mbappé et c'est logique. Il y a un moment de séduction. Il va y avoir plein de choses. Ils veulent le prolonger. C'est clair, net et précis. Et ça fait partie du jeu.
On a essayé ça avec toi. Antoine, t'avais plein de câlins, mais ça n'a pas suffi.
Alors je suis tombé amoureux, je te cache pas, mais ça suffit pas.
Très bien.
Ça suffit pas.
Non. Alors, les jeunes, maintenant, du PSG, alors là, c'est un sujet récurrent entre vous deux, Eric et Dugas, hein, depuis les 4 ans de Team Dugas, la gestion des jeunes, des centres de formation en France, etc. Pourquoi, donc là, on se tourne vers Loïc Tanzi, pourquoi le PSG n'a pas réussi à convaincre Tanguy Kouassi de signer au PSG?
Il nous avait déjà très bien expliqué les fois d'avant quand on a vu beaucoup de jeunes partir.
Ouais, par Eliadji la dernière fois, exactement. Ouais.
La stratégie est assez claire et elle avait été très bien expliquée par
Loïc. Là, pour le coup, c'est un tout petit peu différent pour Tanguy Kouassi puisque c'est pas l'aspect financier qui était le critère numéro un et c'était pas le temps de jeu non plus puisque l'aspect financier, c'est le PSG qui a fait la plus grosse offre de toutes les offres qu'il a eues sur le marché. Le critère numéro un de son départ, c'est la stabilité du club. En fait, ils ont parlé au tout début avec Antero Henrique la saison dernière. Ça a commencé à ce moment-là les négociations de contrat pour son premier contrat professionnel. Ça s'est assez mal passé avec Antero Henrique. Ça s'est bien passé ensuite avec Leonardo. Mais aujourd'hui, ils ont fait un constat. Depuis 5 ans, il y a eu 5 directeurs sportifs différents au Paris Saint-Germain. Il y a eu 4 entraîneurs différents. Et même si ce que disait Leonardo et ce que disait Thomas Tuchel était très intéressant pour Tanguy Kouassi, il ne savait pas si Thomas Tuchel et Leonardo allaient rester au Paris Saint-Germain encore sur le long terme, encore 2-3 ans, comme ce sera le cas dans son nouveau club. En gros, il veut un club où ce sera stable, où il sait que les hommes qui vont lui parler et qui vont lui présenter un projet seront encore là sur la longueur de son contrat. Et ça a été le critère numéro un pour son choix.
Ça se comprend, hein. Sincèrement, ouais. Ça se comprend. Bah, c'est bien parce que ça part de l'idée que ce gamin met son temps de jeu et la stabilité affective, émotionnelle.
Il n'y a pas beaucoup de grands clubs européens qui permettent cette stabilité.
Non, mais
qui ont le même entraîneur, directeur sportif.
Il n'ira pas dans un grand club européen. Il y a un club intermédiaire à trouver. C'est un garçon qui a montré beaucoup de qualités. Voilà, plein de choses très intéressantes. Mais il y a un club intermédiaire à trouver.
Normalement, il devrait quand même rejoindre un grand club européen, Christophe.
Ah ouais?
Il va rejoindre un grand club même.
Ben oui,
qui
non, c'est pas parce que je sais pas.
En Italie, en Espagne, en Angleterre ou ça?
Je sais, franchement, je sais pas le nom du club.
On est dessus du gars.
Si j'avais le nom du club, je te le donnerais du gars, mais j'ai pas le nom du club encore.
Bon, d'accord.
Ouais, bon. Alors l'argument.
C'est juste, il va rejoindre un grand club.
L'argument est bizarre.
Parce que quitter le Paris Saint-Germain, il voulait pas quitter le Paris Saint-Germain pour rejoindre un club intermédiaire.
Après,
pour rejoindre un grand club.
Après, c'est vrai que faut quand même reconnaître que dans les grands clubs d'aujourd'hui dont le Paris Saint-Germain fait partie, c'est un des clubs les plus instables au niveau de sa direction. C'est clair, c'est vrai, c'est net. Les autres grands clubs sont quand même très stables à ce niveau-là. Donc c'est une raison qui a du sens, qui paraît un peu tirée par les cheveux malgré tout pour moi. Mais c'est vrai, c'est à mon avis le constat est réel.
D'accord.
Mais c'est un club où il y aura de la place pour s'épanouir, et mais
enfin, où il faut quand même que quand déjà t'as l'argument financier et le temps de jeu, parce que on est passé un peu vite, mais au niveau du temps de jeu, il a quand même eu.
Mais il a joué
l'année prochaine, peut-être que l'année prochaine il aurait eu ce temps de jeu, mais si Thomas Tuchel s'en va l'année d'après et que lui il a signé un contrat de 5 ans avec le Paris Saint-Germain, et que le Paris Saint-Germain lui dit bah écoute, l'année prochaine tu restes quoi qu'il arrive,
dans quel grand
attends,
qui est là pendant 4 ans.
On vient de parler d'Hernandez qui est champion du monde, qui est allé au Bayern, il y a eu changement d'entraîneur, il est dans la merde. Donc c'est l'histoire du football, ça.
Bah oui, mais c'est eux, dans leur réflexion, ils voulaient un club où ça change moins d'entraîneurs que d'autres clubs.
Et
où ça
change moins de directeur sportif. C'est pour ça que je réfléchis beaucoup moins, tu vois. Ça sert à rien de trop réfléchir. Au bout d'un moment, il faut. Ça sert à rien.
C'est une réflexion qui a pris plus d'un an.
Là, c'est un cas particulier, vraiment très particulier, parce que ces derniers temps, on a des gamins qui n'ont jamais mis le pied en Ligue 1, qui partent de leur club formateur, ce qui devient un très gros problème. Et ce qui fait l'effet inverse maintenant, c'est que les clubs font signer pro des gamins qui ne jouent même pas en national. L'OM vient de faire signer 6 gamins qui jouent même pas en réserve, pour justement pas se les faire piquer. Donc l'effet pervers de cette histoire, c'est que de peur de se faire piquer les mecs maintenant, il faut signer des garçons qui... Il va y avoir énormément de cas, c'est-à-dire que là sur les 6, s'il y en a un qui réussit, c'est un grand miracle. Bordeaux, je crois qu'ils sont dans le même cas que ça. Voilà. Et là, par contre, on a un garçon qui a mis le pied à l'étrier, qui a joué en pro. C'est là où c'est particulier.
Et qui avait la confiance de Tuchel et de Leonardo.
Et exactement. Donc où tu vas retrouver tout ça, je veux dire, de partout où il va aller, il va avoir ça, voire peut-être encore au pire. Et ça nous montre malgré tout, parce que il y avait eu le débat sur l'IAG à l'OM avec les dirigeants, mais qu'est-ce qu'il faut et tout. Mais tous les clubs sont soumis à ce problème-là, même en France, et même le grand PSG, et même Lyon, puisqu'il y a le cas Kaloulou, qui est quand même un club formateur réputé pour faire jouer ses jeunes, et qui même lui ne va pas arriver à garder un jeune. Tu t'imagines dans quoi on est là aujourd'hui?
Oui, alors après, tu as raison, Eric. Alors après, l'erreur, elle part d'Antero Henrique, parce que si les négociations s'étaient bien passées il y a un an ou un an et demi, peut-être qu'il aurait signé, Loïc. Non, je ne sais pas, je pose la question à Loïc. Loïc? Si ça s'était bien passé avec Antero Henrique, quand ils ont commencé à discuter d'une prolongation de contrat à cette époque-là, ça aurait pu se faire.
Il aurait déjà signé son contrat la saison dernière. Ça fait partie du fait qu'il parte. C'est parce que ça s'est mal passé au début avec Antero Henrique. Ça s'est bien passé avec Leonardo. Et qui sait ce qui va arriver dans le futur si Leonardo s'en va?
Mais quand tu rates un jeune comme ça dans le discours, dans le dialogue, ils se vexent, ils partent vite, ils sont sollicités.
Oui, mais alors, donc, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, pour ne pas les rater, tu les fais signer. Quand ils ont même pas mis le pied en national, et du coup, tu as une casse, c'est pas possible.
Mais Eric, t'as entièrement raison. On tire souvent sur les clubs, mais l'histoire
la nouvelle loi du football, loi du travail qui fait ça aujourd'hui.
Il y a aussi un autre élément. Vous savez qu'en France, on n'a pas le droit de donner le premier contrat pro. Le premier contrat pro ne peut pas dépasser 3 ans.
C'est le gros problème.
Et c'est un énorme problème pour les clubs, parce que un plus gros club arrive européen ou un plus grand club français et arrive et tue le club et récupère le gamin au bout de la première saison quand il a fait 8-10 matchs, on s'est rendu compte que c'est un bon joueur, et ça fait que derrière il y a des offres de contrat qui sont assez énormes. Bon. On voit ça à Nancy, on voit ça à l'OM avec l'IAG, mais le PSG est victime de ça aussi.
Il faudrait que tu m'expliques, il y avait le contrat élite qui te faisait signer 2 ans un gamin plus 3 ans professionnel derrière, c'est-à-dire qu'il y avait 5 ans.
Il existe encore. Plus personne ne le fait signer ce contrat.
Il existe toujours.
Le contrat élite existe encore, Eric.
D'accord.
Mais plus personne l'utilise, parce qu'en fait, aujourd'hui, dans le foot, tu passes de stagiaire à stagiaire pro. Et en fait, tu passes d'un contrat pro parce que les gamins ont 16-17 ans quand ils signent des contrats pro.
Dernière précision, Louis.
Juste important, c'est que cette année, le Paris Saint-Germain a fait monter 2 joueurs en pro, Aouchiche et Tanguy-Kouassi. Ils ont fait jouer les 2 joueurs qui n'avaient pas signé de contrat professionnel. Et c'est un très mauvais message qui a été envoyé pour le reste du centre de formation, parce qu'il y avait des joueurs qui avaient signé des contrats professionnels. Et tous les jeunes sont en train de se dire au PSG, en fait, il ne faut pas signer professionnel pour espérer jouer avec les pros et ensuite partir, parce que si on signe professionnel, on reste avec les U19 et on ne joue pas avec les pros.
Ouais. Merci. Bah,
après, c'est pas une énorme perte non plus sportive. C'est pas. C'est,
même bah, si c'est comment bon, comment après, tu le sais ça
comment il va évoluer.
Tu as vu le nombre de jeunes.
Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est parce que c'est pas le projet du Paris Saint-Germain. On l'a vu ces dernières années, faire partir des jeunes assez rapidement et mettre une grosse pourcentage, un gros pourcentage à la revente éventuellement quand
ils partent. Disons que ça, Duga, t'as raison sur les joueurs pas très bons, quoi. Mais si t'as vraiment un phénomène, un crack qui serait titulaire dans ton équipe de Ligue des Champions, c'est embêtant.
Mais dis-moi, regarde le crack, je l'espère, je sais pas, je sais votre avis.
Regarde le nombre de joueurs sortis du centre de formation de Paris qui n'ont jamais joué en pro et qui jouent dans des bons clubs européens,
clubs européens, mais titulaires dans une équipe qui veut gagner la Ligue des Champions, il n'y en a pas 50.
Oui, mais attends. Tes joueurs, dis-moi, tes joueurs d'Apoueg que tu achètes, les Kerrer, les Agadou, dis-moi, si c'était jeune du centre de formation, tu vois, je veux dire, et peut-être que dans le lot, tiens, Mbappé qui te
fait. On arrête là, on fera le centre de formation de l'OM aussi à un moment, vous inquiétez pas. Merci Loïc Tanzi. Merci
Mohamed. Il y a eu 6 pros qu'on signait là.
Ah oui, c'est génial.
Super formation.
Merci Duga, merci Eric.
Mais oui, en plus, c'est la vérité.
Mais bien sûr, dans un instant. Si vous voulez réagir, bien sûr, à ce qu'on vient de dire sur le PSG, 32-16, on vous donnera la parole. Et dans un instant, Christophe Galtier veut entraîner l'OM un jour. Est-ce que ce serait le meilleur à ce poste? 32-16, à tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez les amis, 18h33. Tim Duga continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. Ça va être le moment de parler de l'Olympique de Marseille et d'un jour peut-être son futur entraîneur.
Exactement, Christophe Galtier. Le journal moyen sera là également à 18h45 avec Adrien Aigouin. Salut Adrien.
Salut les copains.
Salut Adrien.
Eric Dimeco. Eric inspire les artistes marseillais. C'est une source d'inspiration, Eric Dimeco. Il inspire Duga depuis 4 ans sur RMC.
C'est vrai.
Et il inspire les grands artistes
plus que ça encore.
Je vais vous faire écouter ça. J'ai pas tout compris, vous allez m'aider à tout décrypter, mais
d'accord.
C'est intéressant.
Saucisse, encore, hein.
Très bien, à tout à l'heure Adrien, merci. Christophe Galtier donc, l'actuel entraîneur de Lille, était en interview hier au CFC sur Canal, et on lui a demandé s'il avait toujours dans la tête l'envie d'entraîner un jour l'Olympique de Marseille.
Mais en tant que Marseillais, je vous réponds que oui. Oui. Mais on n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelle condition. On n'entraîne pas l'OM dans n'importe quelle condition. Je pense qu'il faut être armé, il faut être en pleine forme. Mais c'est un club qui laisse personne n'est sensible, ça c'est sûr. J'aimerais entraîner Marseille.
Alors, la question est simple. Christophe Galtier, ancien joueur de l'OM, entraîneur désormais qui a une belle expérience en Ligue 1, qui est peut-être le meilleur entraîneur français de Ligue 1 actuellement, et qui connaît Marseille puisqu'il est né là-bas, est-ce que ce serait le meilleur pour ce poste-là? 32-16 pour en débattre. Duga, t'en penses quoi?
Le meilleur, je sais pas, ça serait le meilleur, mais pourquoi ça serait... Il serait pas candidat et pourquoi il mériterait pas d'entraîner l'OM? Pourquoi ça serait le moins bon? Je pense qu'il a tout. Et puis je trouve que son analyse elle est très très juste. Déjà dans ce qu'il dit, je trouve que c'est très intéressant. C'est un oui qui est argumenté aussi en disant c'est vrai que l'OM c'est particulier. Ça prouve qu'il connaît parfaitement bien le club, qu'il faut y arriver avec des certitudes peut-être un tout petit peu plus qu'ailleurs, avec un gros mental, avec un gros physique aussi, parce que être entraîneur, même s'il fait pas d'entraînement, ça tire sur la couenne et ça demande beaucoup d'énergie physique, psychologique, c'est un club très particulier qui t'use. Donc déjà il comprend ça, il sait ça, il le sait depuis bien longtemps, il avait pas besoin de mon avis pour ça, mais je pense que c'est un entraîneur qui a su franchir les étapes. Il a commencé adjoint, ensuite à Saint-Étienne, ce qu'il a fait, chapeau, ce qu'il est en train de réussir à Lille, chapeau aussi. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a un gros caractère, mais qui a aussi appris à faire confiance. On le voit dans ses analyses sur le travail qui est effectué à Lille, où chacun est à sa place, où ses relations avec Luis Campos, avec la direction de Lille, ça se passe très très bien aussi. Je pense que c'est un entraîneur qui à travers son expérience a appris beaucoup de choses. À Saint-Etienne, ce qu'il a fait, il tenait la baraque à lui tout seul. Donc voilà, je pense qu'il a étoffé il s'est un petit peu étoffé, il a montré beaucoup de force, d'esprit de décision. Après, je comprends que effectivement, il a envie un jour d'entraîner l'Olympique de Marseille, et c'est logique. Et puis Marseille, de toute façon, c'est quelque chose de particulier. Moi, je l'ai toujours dit, même si tu es joueur de foot, Marseille, ça te marque à vie. C'est une chance de pouvoir jouer à l'OM, que ça se passe bien ou que ça se passe pas bien. Tu vas te confronter à quelque chose qui n'existe pas en France. Voilà. Si t'as pas la chance d'aller à l'étranger, va à Marseille. Tu vas voir ce que c'est que la passion. Tu vas voir ce que c'est que la pression. Et c'est fantastique à vivre. Même toi, humainement, ça change un homme. Tu sors pas d'un club comme Marseille, ou t'arrives pas dans un club comme Marseille. comme ça par hasard non plus. Donc c'est passionnant à vivre. C'est compliqué, mais c'est passionnant. Et au bout d'un moment, t'as besoin de te frotter à ça. Et il a vu, il a fait Saint-Etienne, il a fait Lille. L'étranger, ça avait failli se faire, ça s'est pas fait. S'il a la chance d'aller à Marseille, je pense que ça serait une chance pour lui. Et à mon avis, peut-être une bonne opportunité aussi pour l'Olympique de Marseille. C'est un des meilleurs entraîneurs aujourd'hui en Ligue 1. Donc oui, l'idée me séduit.
Eric.
Moi, pour moi, c'est dans l'ordre des choses. Je pense que aujourd'hui, dans le projet avec l'économie à l'OM, c'est le meilleur entraîneur possible. Notamment puisque on sait aujourd'hui que Villas-Boas va faire l'année et qu'il fera pas plus. Je pense que l'OM serait bien inspiré de pas laisser passer cette occasion-là. Parce que c'est, tu l'as dit, c'est le meilleur entraîneur français de Ligue 1.
Après, il n'y a pas vraiment d'occasion parce qu'il est sous contrat encore avec Lille.
Oui, mais bon.
Après, c'est pas comme s'il était libre, voilà.
Oui, non, mais il a des arguments à faire valoir quand même. Il fait le job plutôt très bien à Lille. Il a fait très bien aussi à Saint-Etienne. Il est capable, il a montré avec des clubs qui ont une économie limitée de faire des miracles. Donc dans le projet marseillais aujourd'hui, je vois pas qui d'autre. Et puis en plus, c'est petit d'ici. Et c'est pour ça que je dis c'est dans l'ordre des choses parce que. Je ne vois pas comment cette histoire-là ne pourrait pas arriver. Alors après, ça finit bien, ça finit mal, ça personne ne peut le savoir. Mais il a été formé au club, il a joué pour ce club-là, il est attaché à ce club-là, il est attaché à cette ville-là. Je trouverais dommage que ça n'arrive pas, parce que je le répète, vu. Alors tu me dirais, l'OM aurait l'économie du PSG. Tu veux aller chercher des noms. Et encore, les noms, on le voit à Paris, ça marche pas toujours. Donc voilà. Mais là, dans l'économie aujourd'hui, c'est attention. Je le répète, ce qu'il a fait à Saint-Etienne et Lille avec les moyens qu'avaient ces clubs-là, c'est miraculeux à chaque fois. Et donc j'aimerais le voir ici. Peut-être que ça se fera jamais. Moi, je trouverais ça dommage. Voilà. Alors il y a le côté peut-être. Passionnel qui me fait parler aussi parce que c'est pote, on a été formés ensemble, mais je trouverais ça dommage parce que c'est rare, tu sais, les entraîneurs, il y a eu Gérard Gilly, il y a eu Roland Gransard bien avant, dans le football moderne, il y en a pas beaucoup, hein. Roland, pardon,
quoi,
Roland,
Albert Raymond,
il y a eu coach,
Albert,
Raymond, coach. Oui, coach Albert aussi, ouais, tiens, ouais. Il y en a eu plus que ce que je pensais, tiens, raison. Mais Albert, Roland, Gérard et Roland.
Ouais. Ça remonte un peu aussi.
Cazot qui est pas marseillais, il a joué au club, mais qui est pas marseillais, Cazot.
C'est là-dessus que j'allais te relancer. Est-ce que quand on est marseillais pur et dur, c'est pas plus difficile de s'imposer à Marseille? Ok, on connaît le contexte, etc., mais on connaît aussi beaucoup de gens.
Faut... Regarde les garçons que je t'ai cités. Roland Gransard, quand il arrive, il faut monter le club
à Nigo aussi.
Première division. Ah, il y a eu José aussi. Putain, mais il y en a eu plus que ce que je pensais. Oh. C'est dingue. Tu regardes les quatre que je t'ai cités, ou cinq.
Ouais, ils ont tous réussi.
Ben, quand même.
Ils sont tous partis essorés, par contre.
Ah, ben oui, parce que par contre, quand tu es du cru, tu souffres, hein, parce que tu peux pas t'isoler. Les mecs qui te fatiguent toute la journée, hein. Tu peux pas t'échapper. Villas-Boas, il peut s'échapper, hein. C'est-à-dire que il est personne l'embête. Là, tu es 24 heures sur 24 entraîneur de l'OM. Voilà. Donc ça, c'est le problème. Mais Christophe connaît le club, hein. Il sait les problèmes qu'il y a. Hein. Ouais, non, mais sur le sec, oui, il y en a plus que ce que je pensais, et ils ont tous réussi.
Ouais.
Comme quoi, connaître l'environnement de ce club-là, c'est peut-être un atout, hein.
Voilà. Bah alors, dans ce cas, il faut que tu retournes au club, Eric.
Non, des pros.
Ah si, il faut le head of football.
On a parlé des professionnels.
Ouais, mais il faut rappeler qu'on attend toujours un head of football.
Je suis head de rien du tout. Déjà, j'essaie d'être head à la maison. Et même pas head à la maison.
Si Galtier t'appelle, tu dis non.
Mais arrêtez de faire des raconter des
sous-titres. Un ticket entre vous deux, bah oui.
C'est un métier, le football. Et il y a des gens qui
le font. Tu mettras l'ambiance, tu feras des blagues, tu lui feras rire, les mecs et tout. C'est important, l'ambiance et tout. Tu feras des kikadis.
Tu diras, les derniers temps, en équipe de France, je me demande si c'est pas pour ça que je venais. Donc, ça m'inquiète un peu.
Allez, on en reste là sur l'OM, bien sûr. Et sur Christophe Galtier, on revient dans une seconde avec donc le journal moyen d'Adrien Aigouin. À tout de suite.
RMC, 18h-20h.
Tim Duga.
Jean-Louis Tour.
Christophe Dugarry.
Allez, 18h46, Tim Duga continue avec Jean-Louis Tour, avec Eric Dimeco. À partir de 19h, les amis, nous allons revenir sur la carrière de Karim Benzema.
Et revenir sur la situation compliquée pour Antoine Griezmann, de nouveau ce week-end, sorti avec le Barça, alors qu'il n'était pas auteur d'un très gros match. Fred Hermel sera avec nous tout à l'heure. Tout de suite, c'est le journal moyen, Adrien.
À la une du journal moyen de Tim Duga aujourd'hui sur RMC, de la chanson encore, de la chanson dans le journal moyen, on aime ça. Eric Dimeco inspire des artistes marseillais. Une belle histoire de maillot. encore à Marseille. Et puis une blessure au Borussia Dortmund qui concerne un élément important du club. Vous êtes prêts les amis?
Oui, c'est parti.
J'espère que vous n'avez pas oublié. Non. Aujourd'hui c'est un anniversaire très important. L'anniversaire du président d'honneur du Nîmes Olympique. Vous avez oublié
ça? Ah oui, bien sûr, j'ai oublié.
Vous avez oublié.
C'est Jean-Jacques, hein.
Vous avez oublié.
Bon anniversaire à lui.
Vous avez oublié ça, c'est terrible pour vous.
J'ai pas oublié.
Vous écoutez RMC, c'est le 337e journal moyen de l'histoire de Super Moscato Show.
Non.
En direct de la rédaction d'RMC Sport.
C'est le journal moyen de Tim Dugas.
Adrien Aigouin.
J'ai écrit de l'histoire du Super Moscato Show.
Dis-moi, c'est même pas le problème.
Tu es terrible ça.
Tu es d'Adrien Aigouin depuis le début, depuis la première.
Non, ils m'ont accueilli après. Quand ils ont vu que ça marchait pas, ils m'ont accueilli
pour commencer. Les scores étaient pas bons, ils t'ont d'accord.
Donc
tout ça c'est grâce à toi finalement.
En partie, mais on en parle pas beaucoup avec Dugas par pudeur, tu vois, c'est pas voilà. Le mec il s'avance vite. Il se passe beaucoup de choses à Marseille, Eric, chez toi. Ressortez-moi le jingle OM, s'il vous plaît.
Il va falloir gagner.
Ici, c'est Mars.
Il va falloir mettre des sous.
Puis, c'est plus des gamins maintenant. Hein.
Atmosphère tendue, volcanique.
Ce sont des messieurs.
De la zig automatique de Maclou.
Ah, il est bon, ce jingle. Une histoire qui commence très, très mal pour un supporter de l'OM ce week-end. Un supporter dégoûté qui exprime même sa détresse sur Twitter. Il s'appelle Prince Joestar. Et il publie « Je viens d'aller récupérer mon maillot de l'OM que j'avais déposé hier pour qu'on me le floque Alvaro González au magasin de l'équipementier » Paris et on m'a arraché mon sac dans la rue en rentrant. Me conseillez-vous d'aller porter plainte ou est-ce que ça sert à rien? Il met même en ligne une photo du ticket de caisse du magasin avec le maillot qui était prêt à être floqué, etc. Oui. Et là, magie de Twitter, magie du foot, magie de l'Olympique de Marseille. Alvaro González, une des stars de l'OM, voit le message et répond directement à ce supporter déçu. Tranquille mon ami, reste tranquille. Alors il le vous voit, il dit je vous donne le nouveau maillot de l'Olympique de Marseille. Il est sympa, c'est Alvaro González, il est toujours actif sur les réseaux sociaux. Il a repéré ce message et il enverra donc le nouveau maillot de l'OM qui est pas mal, Eric. Je sais pas si vous avez vu du gars Eric, vous les anciens joueurs de l'OM.
Alors non, je l'ai vu, oui. J'arrive pas à me faire une idée, j'attends de le voir.
Blanc, petit col bleu rond. Hein,
non, celui-là, le simple, j'aime bien. Ouais.
Le simple, ouais, le maillot.
Après le bleu, le avec les monuments, j'aimerais voir parce que ça me fascine, mais je sais pas si c'est beau ou non.
Non, porté sur le terrain, peut-être c'est pas.
Non, mais après,
le classique c'est... est pas mal avec le petit liseré bleu aussi sur les manches.
Les dessins voilà. Dessus, quand tu regardes de loin, ça passe sûrement. Hein.
Non, oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr.
Mais qui est ce monsieur qui s'est fait voler le.
C'est un supporter. Un supporter. Son pseudo sur Twitter, c'est Prince Joestar. Et donc,
je croyais que c'était le vrai Joestar parce que il est pas
Alvaro González vient à son secours et lui offre le maillot. Vous savez qu'à propos de ce joueur, il y a eu un énorme problème sur le flocage des maillots l'été dernier. Des supporters ont été déçus. Parce qu'en fait, souvenez-vous, Jacques-Henri Hérault, lors de la présentation du joueur.
Bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence ici aujourd'hui pour la présentation officielle de notre première recrue estivale, Alvaro Gomez.
Oui, bah du coup, il y a plein de petits enfants qui ont fait floquer Alvaro Gomez.
Voilà. Bon, il était juste à côté.
Oui, il était à côté, c'était pas gênant, ça va. Ah, c'est pas grave, Eric, c'est Marseille en fait. Et puis Marseille.
Oh non.
Toujours Marseille, non. L'Olympique de Marseille met régulièrement en valeur de jeunes talents, de jeunes artistes marseillais en mettant en ligne des clips sur le compte Twitter officiel du club. Nouvelle chanson donc, une jeune marseillaise qui s'appelle Lansky Namek. Est-ce que ça te dit quelque chose Eric, que tu connais?
Je l'ai vu passer.
Alors elle nous offre, je cite, un titre qui s'appelle le Freestyle Waddle, c'est le nom du titre. Je sais pas si c'est vraiment du rap, j'y connais pas grand chose en rap. Écoutez bien le début du passage, elle parle de notre Eric Dimeco à nous, mais elle parle vite, donc essayez de comprendre ce qu'elle dit, c'est pas facile. Vous avez compris la première note ou pas, la première phrase?
J'ai pas lu mon nom, mais
On entend Dimeco. Elle parle trop vite, mais on.
Mais c'est du rap ça?
Ah, c'est du rap, on réécoute pour voir.
J'arrive à la Dimeco, je
vous comprenez mieux ou pas? Non?
Oui, on a compris le sens quoi.
J'aiguise, rime et croc. Ah. J'arrive à la Dimeco. Je tacle et vise les côtes. Ouais, depuis Minot. Je me rappelle. Depuis Minot, ça crame le micro. Génial. Ça crie pour l'OM. Donc j'arrive à la Dimeco. Je tacle et vise les côtes. Encore un préjugé. On caricature Eric. Mais je savais faire des sons trop si
pourquoi il n'y a pas un artiste qui dit je centre à la Dimeco?
Oui, ça me déconne. J'ai fait une roulette avec un sombrero et un petit pot.
C'est quand même terrible, Eric.
Là, c'est science-fiction.
Tu te suivras jusqu'au bout, Eric, ça. Tu pourras pas. Là, c'est bon.
Prochain Spielberg, ouais.
On écoute le reste de la chanson. Vous aimez bien ou pas?
Oui, ça s'écoute, ouais.
Ouais.
des jeunes talents, hein, c'est voilà.
Moi j'aime bien quand c'est les filles qui.
Alors je t'explique. J'aime bien. Je t'explique. Adrien, régulièrement, donc en réalité, il donne des mots clés à des jeunes artistes qui sont pas pros, hein,
qui doivent composer
des chansons, et il y a des gagnants, et à la fin, il y aura un grand concert voilà. Je ne dévoile pas tout, mais. Je risque d'être dans le coup sur l'organisation du grand concert.
Il est de partout, il mange à tous les râteliers.
Je mange rien du tout. Je t'ai expliqué que.
Donc là, il y avait des mots clés, Dimeco, tacle.
Voilà. Ah peut-être, ouais. Peut-être c'est simplement parce qu'on l'a obligé, ouais. Tu sais. Ah ouais, peut-être c'était des mots clés. En réalité, il y a pas de quoi ronfler, les gars.
Tu feras peut-être la première partie avec ton groupe.
Et non, ça a rien à voir. Ils vont lui jeter des bières. Ah ben oui, c'est sûr que là, si tu es, si on fait deux notes de ce qu'on joue nous devant les petits.
Avec les maillots de Manchester City.
Voilà, ouais. Alors là, ça fait jeter des canettes là.
En tout cas, bonne initiative de l'OM. On se moque parfois de la communication à Marseille. C'est pas mal.
Non, non, ils aident beaucoup la scène musicale.
Et pourquoi l'OM, ils vous font pas jouer à la mi-temps d'un match, Eric? Osiris à la mi-temps.
Ben, parce qu'ils veulent pas que les gens partent.
C'est la mi-temps, ils sont plus là.
Sans transition. Direction. Je connais bien ce pays, Jean-Louis.
L'Uruguay.
L'Allemagne.
Et quoi que l'Allemagne, l'Uruguay, ça a été longtemps l'Allemagne presque.
Ah pardon, j'ai anticipé.
Avec
un peu.
Une blessure. Oui, alors, c'est quand même assez c'est anecdotique, mais moi je trouve ça fascinant. Düsseldorf Borussia Dortmund ce week-end. À la toute fin, but d'Erling Haaland et pas Hollande. Hein, je sais pas qui disait ça au début, c'était Eric qui disait Hollande.
Alors, tu me cherches sur ça.
Non.
Tu veux que je balance ou non?
Non. 95e minute, victoire du Borussia à la dernière seconde et là Lucien Favre saute de joie, l'entraîneur du Borussia et la grimace sur le visage.
Claquage,
mollet gauche. Et figurez-vous que c'est la deuxième fois que ça lui arrive. En début de saison, en coupe, il y a un but comme ça à la dernière seconde. Il se lève et là, c'était la cuisse gauche. Ah. Il faut s'hydrater, monsieur Favre.
Et il est fragile, il faut arrêter la viande rouge.
61 déjà. Ans, il faut s'hydrater. Parce que là, ça va pas. Les mecs, ils gagnent à la dernière minute, ils se claquent à chaque fois. Et puis, direction
l'Allemagne.
L'Uruguay,
L'Uruguay
est. Cavani a été vexé par Eric Dimeco, puisque Cavani, vous vous souvenez, je vous ai diffusé ce son-là, sur une vidéo, il est en train de faucher, là, avec sa faux dans un champ. Eric Dimeco.
Ça, c'est pression d'Adrien.
Eric Dimeco a dit, ouais, alors en plus, il le fait mal. Cavani, pas véritablement quelqu'un de la campagne, son geste est très maladroit.
Ça. J'ai jamais dit ça, mais quel escroc, ce mec.
Tu l'as dit.
Quel escroc.
Eric est un grand agriculteur, en plus.
Tu rigoles, ma mère travaillait dans les champs. J'aurais aimé que. Toute ma jeunesse, j'ai travaillé dans les champs, moi, pour gagner mes sous.
La semaine dernière,
tu as été dans les champs, oui, ça.
Cavani publie une vidéo où il tond un mouton à main nue, pas facile, et là il y a quelques heures, parce qu'il a entendu Eric se moquer de lui, publie une nouvelle vidéo, nouvelle séquence de fauchage dans le champ, et voilà. Il a progressé, Eric, tu rapportes cette vidéo.
Il met bas une truie, non?
Non, mais il a les appuis beaucoup plus fermes, et nouvelle carrière pour Cavani, c'est dans son hacienda, toi qui parles bien espagnol.
Ça ferme, quoi.
Jean-Louis, oui. Ça ferme en Uruguay, c'est à lui, voilà.
Merci Adrien, merci pour ce journal moyen.
Merci,
à demain.
Merci Eric.
Merci les poulets. Hollande, c'était nul. Hollande.
Ah non, mais alors, vous voulez que je vous raconte? J'ai pas le temps de vous raconter ça.
Il se prenait pour le plus intelligent. Moi, je prononce bien.
Non. Il y a des génies chez nous. Chez nous, il y a des génies que décrétés.
On coupe Eric, merci.
Allez, c'est bon, parce que vous allez m'énerver avec ça.
Et dans un instant. Oui, mais dit, Eric veut jamais donner les noms. On me dit donne les noms, mais il veut pas donner les noms, Eric. C'est tout, il est comme ça.
Hollande.
On en parlera avec Manu Petit qui nous rejoint dans un instant.
Jean-Louis, tout à l'heure, j'ai pas aimé, tu t'es moqué de Diams. J'ai pas apprécié.
Ah non,
ça m'a vexé.
Je me suis pas moqué.
C'est une de mes chanteuses préférées, donc tu m'as.
Ça m'étonne pas.
Ouais.
Bah, chante un peu.
Allez.
Chante la boulette.
Bah oui.
Alors. Ouais, je préfère aller faire les boulettes. J'en ai fait tellement. France-Afrique du Sud, boulette, bam. Allez,
dans un instant, la carrière de Karim Benzema en détail. Et Antoine Griezmann, est-ce une erreur de casting au Barça? Tout de suite.
RMC. 18h-20h. Tim Dugas.